Esther chapitre 10, il est écrit, le roi Assuréus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses? Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuréus, considéré parmi les juifs et aimé de la multitude de ses frères, il rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Amen. Voilà donc le message, le texte que nous lisons ce matin. Et le titre que nous donnons au message de ce matin, c'est la gloire que Dieu a donnée à Mardoché auprès du roi Assuréus. Si nous prenons les notes, c'est ça. Voyez, la gloire que Dieu a donnée à Mardoché auprès du roi Assuréus. Et comme je disais au départ, voyez, nous sommes arrivés à la fin de cette étude et je pense que le Seigneur a béni abondamment cette étude dans nos cœurs. Toutefois, nous devons continuer d'étudier, de méditer là-dessus, parce que nous n'osons pas dire que nous avons tout dit, puisque la parole de Dieu est infinie. Elle est infinie. Alors, la première des choses que je voudrais qu'on voit ce matin, avant de parler même de la gloire de Mardoché telle que elle se révèle dans ce texte, c'est au premier verset où il est dit, n'est-ce pas, le roi Assuréus imposa un tribut au pays et aux îles de la mer. Donc nous allons parler du tribut que le roi Assuréus a imposé au pays et aux îles. Et un tribut, c'est quoi? Un tribut, c'est une contribution, n'est-ce pas, qu'un peuple impose à un autre peuple qu'il a vaincu en guerre comme signe de dépendance. Comme signe de dépendance. Vous voyez, c'est une sorte de taxe qu'un peuple dominé paye périodiquement au peuple qui le domine pour éviter d'être constamment attaqué et pillé, ou même en guise de protection contre un autre peuple plus fort. Voyez, c'est ça le tribut. Ça veut dire que si nous pouvons prendre un exemple, hein, je vais en guerre contre William et je le domine, alors je le soumets à me payer périodiquement, soit chaque mois, soit chaque année, de me payer telle somme, ou bien de m'apporter telle quantité de telle quantité de tels matériaux, des matériaux précieux comme de l'or, du diamant ou bien quoi. Bon, donc c'est ainsi. Ou parfois même encore, je peux imposer un tribut à William parce qu'il craint Papa Léopold, qui est plus fort que lui. Pour que Papa Léopold ne vienne pas, n'est-ce pas, l'attaquer, William me paye un tribut pour que chaque fois que Papa Léopold se lève, c'est moi qui vais à la rencontre de Papa Léopold pour défendre William, et n'est-ce pas, c'est comme ça. Donc, c'est ça le tribut. Et c'est quelque chose qui se payait en argent, en or, en poids d'or, en poids de pierres précieuses, ou bien même en bois, ou bien, ouais, en fait, plein de marchandises. Parfois, c'était du bétail. Voyez. Et nous le lisons dans 2 Samuel, pour voir de quoi il s'agit. 2 Samuel chapitre 8, versets 1 à 6. Voir comment David a imposé le tribut aux Moabites et aux Syriens. Il est écrit dans 2 Samuel chapitre 8, versets 1 à 6. Il dit, Après cela, David battit les Philistins et les humilia. Et il enleva de la main des Philistins les rênes de leur capitale. Il battit les Moabites et les mesura avec un cordeau en les faisant coucher par terre. Il en mesura deux cordeaux pour les livrer à la mort et un plein cordeau pour leur laisser la vie. Et les Moabites furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Voyez donc, comme il leur a fait grâce, au lieu de les tuer, hein, il leur a laissé la vie, alors il fallait maintenant qu'il lui paye, et il leur a imposé un tribut. Verset 3, David bâtit Hadadézer, fils de Rehob, roi de Soba, lorsqu'il alla rebâtir sa domination sur le fleuve de l'Euphrate. David lui prit 1700 cavaliers et 20 000 hommes de pied. Il coupa les jarrets à tous les chevaux de trait et ne conserva que 100 attelages. Les Syriens de Damas vinrent au secours d'Hadadézer, roi de Soba, et David bâtit 22 000 Syriens. David mit des garnisons dans la Syrie de Damas, et les Syriens furent assujettis à David et lui payèrent un tribut. Voilà, n'est-ce pas, comment est-ce que cela se passait. Nous lisons encore dans Deux Rois. Voilà ce que c'est que le tribut. Dans Deux Rois chapitre 3 et le verset 4, il est écrit, « Mécha, roi de Moab, possédait des troupeaux, et il payait au roi d'Israël un tribut de 100 000 agneaux et de 100 000 béliers avec leur laine. » Avec leur laine. Oui. Et à la mort d'Akab, le roi de Moab se révolta contre le roi d'Israël. Bon, nous nous arrêtons là. Et dans Deux Rois 17, donc, comme je disais que le tribut se payait soit en poids d'argent ou en or, hein, en bétail, en fait, tout ce que les rois choisissaient, hein, pour leur intérêt, en fait, selon les besoins de leurs besoins. C'est ainsi qu'ils imposaient. Deux Rois 17, verset 3 à 4, il est écrit. D'abord verset 2, verset 1, la 12e année d'Akaz, roi de Juda, Osée, fils d'Ela, régna sur Israël à Samarie. Il régna 9 ans, et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, non pas toutefois comme les rois d'Israël qui avaient été avant lui. Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre lui, et Osée lui fut assujetti, et lui paya un tribut. Mais le roi d'Assyrie découvrit une conspiration chez Osée, qui avait envoyé des messagers à So, roi d'Égypte, et qui ne payait plus annuellement le tribut du roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie le fit enfermer et enchaîner dans une prison. Dans une prison. Voilà. Donc, voilà comment les uns assujettissaient les autres aux tribus lorsqu'ils les gagnaient en guerre, lorsqu'ils étaient victorieux d'eux en guerre. Ou bien, ouais, c'était parfois pour se protéger d'un autre ennemi. Donc, voilà donc le tribut que nous voyons le roi Assuréus imposé au pays et aux îles. Et ce que nous voulons voir là, ce que je veux vous amener à voir là, c'est que de même, n'est-ce pas, nous-mêmes qui sommes là ce matin, par nature, nous étions des impies, par nature, nous étions des ennemis de Dieu, par nature, nous étions des étrangers
Par nature, nous étions des pécheurs.
Oui.
Mais par la toute-puissante grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, Dieu nous a vaincus.
Est-ce que vous savez ça?
Est-ce que vous savez que l'ennemi que nous étions, l'ennemi de Dieu que nous étions, par sa toute-puissante grâce, il nous a vaincus par le sang de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Et il nous a soumis à sa domination, il nous a soumis à son entière dépendance. Nous dépendons totalement et entièrement de lui, et nous sommes soumis à la domination de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il est notre roi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il est notre sauveur, il est notre rédempteur, il est notre frère, il est notre père, il est notre ami, mais qui étions-nous avant d'être ce que nous sommes devenus par sa grâce? Ses ennemis, pécheurs, impies, qu'il a conquis par le sang de sa croix. Et de même que le roi Assuréus ou bien les autres rois soumettaient ceux qu'ils ont vaincus aux tribus, de même nous sommes, n'est-ce pas, soumis à payer un tribut à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous lui payons constamment et incessamment le saint tribut de crainte, de la crainte, le saint tribut de l'honneur, le saint tribut de la soumission, le saint tribut de l'obéissance, le saint tribut de l'amour, lui qui nous a aimés le premier et qui est mort sur la croix pour nous. Nous lui payons un tribut. Un saint tribut. Un saint tribut d'honneur que nous lui rendons chaque jour. Un saint tribut de crainte. N'est-ce pas, dont nous le craignons, nous le respectons. Un saint tribut de soumission, d'obéissance. Un saint tribut d'amour. Lui qui nous a aimés le premier. Et qui s'est donné sur la croix pour nous. Et c'est pourquoi la Bible est claire que celui qui n'aime pas le Seigneur Jésus-Christ, qu'il soit anathème. Oui, si nous ne lui donnons pas ce tribut, ce saint tribut d'amour, lui qui nous a conquis sur la croix et qui nous a acquis et à qui nous sommes soumis, si nous ne lui donnons pas ce saint tribut, alors nous n'avons rien à voir avec lui. Si nous n'avons pas la crainte de Christ, nous n'avons rien à voir avec Christ. Ce n'est pas ici une crainte servile, une crainte de jugement, de condamnation. Non, il n'y a plus, mais il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais nous lui rendons une cette crainte du respect, de l'honneur qui lui est dû, de la gloire qui lui est due. Nous payons ce tribut de soumission, d'obéissance. Si nous ne sommes pas soumis à Christ, nous n'avons rien à voir avec lui. Si nous n'obéissons pas à Christ, nous n'avons rien à voir avec lui. Si nous ne l'aimons pas, nous n'avons rien à voir avec lui. Avec lui. Avec lui. Voyez, mes amis, et c'est un saint tribut que nous payons. Chaque jour, constamment, incessamment, un saint tribut que nous allons payer pour l'éternité. D'éternité, un tribut que nous allons payer éternellement. Éternellement. Vous voyez, ce n'est pas une contrainte comme les tribus imposées par les peuples ennemis. Ce n'est pas une contrainte, mais c'est un tribut, un saint tribut d'amour. D'amour. Voyez, mes amis, nous ne servons pas notre Seigneur Jésus-Christ par contrainte. Nous ne nous soumettons pas à lui par contrainte. Nous ne lui obéissons pas par contrainte. Nous ne l'honorons pas par contrainte. Mais c'est par amour, c'est avec amour, avec joie et avec fierté, et je dirais même avec jalousie, que nous l'honorons, lui qui nous a aimés, que nous l'aimons. Lui qui est mort sur la croix pour nous, lui qui a porté en lui nos péchés et qui
nous a délivré de la puissance du péché, de la condamnation du péché, qui nous a délivré de la mort, lui en qui notre vie est cachée. C'est par amour. C'est avec joie, avec fierté, et je dis même encore avec jalousie. En réalité, nous devons être jaloux. Jaloux de cela. Et que le Seigneur nous donne la grâce de nous acquitter de notre tribu. Hein? De nous acquitter de ce saint tribut avec joie. De nous acquitter de ce saint tribut avec amour. De nous acquitter de ce saint tribut avec fierté. Avec fierté. Et une deuxième chose que nous voyons dans notre texte ce matin, verset 2, il est écrit tous les faits concernant sa puissance et ses exploits et les détails sur la grandeur à laquelle le roi éleva Mardoché ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques des rois des Mèdes et des Perses. Voilà ce que nous voyons là. N'est-ce pas, c'est la grandeur, la puissance de Mardoché rapportée dans le livre des chroniques des rois des Perses et des Mèdes. Voyez, nous l'avons dit ici, le livre des chroniques, nous l'avons vu dans le chapitre 6. Le livre des chroniques ou bien les annales est une sorte de journal du trône. Du trône d'Assyrius, dans lequel tous les événements qui se passaient dans la cour du roi, dans la vie du roi et dans la vie du royaume sont rapportés. Et nous l'avons lu et lisons-le dans le chapitre 6, lorsque Dieu a, de manière souveraine, enlevé le sommeil au roi Assyrius. Il est écrit, chapitre 6, verset 1, cette nuit-là, le roi ne put pas dormir et il se fit apporter le livre des annales, les chroniques. On les lut devant lui, devant le roi, et l'on trouva écrit que Mardoché avait révélé au sujet de Bithan et de Térec, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assyrius. Et c'est là que le roi a posé la question, mais comment a-t-il été récompensé? Et on lui dit, rien. Et c'est là que le roi, n'est-ce pas, a donc souverainement, guidé par Dieu, commencé à élever Mardoché en dignité. Donc, le livre des chroniques servait comme un livre d'histoire pour rappeler certains faits, n'est-ce pas, et pour instruire les générations futures sur la vie, la gloire, la puissance, les exploits des rois passés. Même dans la Bible, ici, il y a le livre des chroniques des rois d'Israël. Les livres de chroniques 1 et 2. C'est l'histoire de tous les rois d'Israël. Lisez-les, vous allez voir. Les livres de chroniques 1 et 2. Après un roi et deux rois. Donc, c'est l'histoire des rois d'Israël, et c'est ainsi donc que ce livre de chroniques du royaume du roi Assyrius était comme ce livre d'histoire. Et comme nous voyons ici, c'est dans ce livre, n'est-ce pas, que on devait donc rappeler les faits, les hauts faits de ce juif Mardoché, qui a été le premier après le roi Assyrius. C'est là qu'on devait s'instruire de sa gloire, de sa puissance et de ses exploits de ce qu'il a fait pour le royaume et de ce qu'il a fait pour son peuple, le peuple d'Israël. Voyez, mes amis, ainsi, les jeunes générations devaient s'instruire sur ce juif, hein, de la gloire que Dieu lui a donnée dans le royaume d'Assuréus et de ce qu'il a fait pour le royaume d'Assuréus. Et en fait, nous voyons là une très belle image. Une très belle image de quoi? Une très belle image de quoi? De la Bible. Amen. Nous voyons ici une très belle image de la Bible. Elle est le livre des chroniques. Elle est le livre des chroniques. Vous voyez, la Bible, les Écritures, hein, la parole de Dieu, elle est le livre des chroniques de Dieu. Elle nous révèle la volonté de Dieu. Elle nous instruit sur les hauts faits de Dieu dans le passé en faveur de son peuple. Voyez. Et elle est l'histoire de la rédemption en Jésus-Christ qui nous instruit sur la gloire éternelle de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous instruit, n'est-ce pas, sur la gloire éternelle du Fils de Dieu qu'il est et qui nous instruit sur la toute-puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ses perfections, hein, et sa divinité qui se lisent à travers la création parce que c'est lui qui a créé le monde et qu'il a démontré de son vivant à travers les miracles qu'il accomplissait, et particulièrement à travers sa résurrection d'entre les morts. Ouais, nous voyons à travers ces choses la divinité de Christ, la toute-puissance de Christ, les perfections éternelles et glorieuses de Christ. Elle nous instruit sur l'humilité, sur son humilité, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant un homme, lorsque les temps furent accomplis pour venir souffrir et mourir pour le péché de son peuple. Elle nous instruit sur son ensevelissement, sur sa résurrection et sa glorification à la droite de Dieu, à la droite de la majesté de Dieu. La Bible nous instruit, hein, sur l'excellence, la perfection, l'efficacité de l'œuvre accomplie sur la croix par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, une œuvre parfaite, hein, qui, par son sang, a payé la dette et a satisfait à la justice de Dieu. Voilà, les chroniques, le livre des chroniques, ce que nous tenons en main, notre Bible, c'est le livre des chroniques de Dieu. De Dieu. Et si quelqu'un veut nous parler de Dieu, si quelqu'un veut se rappeler un fait, hein, un fait concernant Dieu, c'est uniquement et entièrement dans la Bible. Dans la Bible. C'est là que tout est révélé. Tout est révélé. Oui. C'est là que nous parvenons à la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à sa gloire, à sa puissance comme Mardoché. N'oubliez pas que nous le disons toujours, Mardoché était une image de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Et cette gloire qu'il avait auprès du roi Assuréus, image de la gloire que le Seigneur Jésus-Christ a auprès de son Père. Et l'efficacité de son œuvre, hein, accomplie par sa mort sur la croix et par sa justice. Elle nous instruit sur la paix, le repos, la joie, l'assurance, la sécurité qui découle de cette justice de Christ accomplie sur la croix par sa mort. Oui. Et elle invite les élus, hein, à se reposer. À se reposer dans cette justice, à se reposer dans ce Christ révélé dans les Écritures et dans son œuvre accomplie sur la croix. Amen. Voilà. C'est ça le livre des chroniques. Et il n'y a pas un grand livre de chroniques qui dépasse celui-ci. Parce qu'en fait, toute l'histoire de la terre se résume dans La Bible. Dans la Bible. C'est le plus grand livre de chroniques qui existe au monde. Toute l'histoire du monde se résume dans la Bible. Et donc, comme, n'est-ce pas, tous les faits concernant Mardoché, sa puissance, ses exploits, les détails de sa grandeur, hein, à laquelle le roi Assuréus l'avait élevé, hein, étaient consignés dans le livre des chroniques des rois, c'est ainsi que tous les faits concernant notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, sa puissance, ses œuvres, hein, sa grandeur, sa gloire, tous sont consignés, tous sont inspirés par le Saint-Esprit dans les Écritures. Dans les Écritures. Voyez, mes amis, celui qui veut parler de Dieu, en dehors de ce que Dieu dit de lui-même ou de son Fils Jésus-Christ, ou des pécheurs, ou du salut en Christ, en dehors de ce que Dieu dit dans la Bible, ne parle pas de Dieu. Il parle en son chef. Il parle selon ses pensées. Il parle selon ses visions. Mais il ne parle pas selon le témoignage que Dieu a rendu dans le livre des annales, les chroniques, les Écritures, sa volonté qu'il nous a révélée. Et c'est pourquoi nous tenons bien à la parole de la prophétie. Ça veut dire à ce que Dieu a révélé concernant son Fils Jésus-Christ et concernant, n'est-ce pas, l'œuvre qu'il est venu accomplir et la gloire à laquelle il est assis, la gloire dans laquelle il est assis en ce moment. Et voilà donc notre livre des chroniques. C'est notre livre, il doit être notre livre de poche. Vous voyez, la Bible doit être pour nous un livre de poche. Un livre de poche. Pour élever constamment nos yeux vers le Seigneur Jésus-Christ et son œuvre accomplie pour notre salut. Une troisième et dernière chose que nous voyons, c'est la gloire de Mardoché le Juif et son amour pour son peuple. Et cela nous amène, n'est-ce pas, à la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et à son amour pour son peuple que nous sommes, son peuple élu. Il est écrit dans le verset 3, « Car le juif Mardoché était le premier après le roi Assuréus. » Et Mardoché, il est dit qu'il était le premier après le roi Assuréus, en gloire et au-dessus de tous. Et cela nous rappelle, n'est-ce pas, par exemple, Joseph en Égypte, n'est-ce pas? Lisons dans Genèse 41, versets 40 à 44, pour voir ce que Dieu a fait de Joseph en Égypte, comme il a fait de Mardoché à Suse. Dans le chapitre 41, il est dit à partir du verset 40, voilà ce que Pharaon dit à Joseph. D'abord, verset 39, et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur un char qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, et sans toi, personne ne lèvera la main, ni le pied, dans tout le pays d'Égypte. Vous voyez? Le premier après Pharaon a dit, ce n'était que le trône qui les séparait. Pharaon était roi, Joseph n'était pas roi. Voilà ce que ça veut dire. Pharaon était le roi, Joseph n'était pas le roi. Mais en dehors de cela, Pharaon lui a donné tout pouvoir. Et aussi, nous pouvons lire dans Daniel chapitre 6, d'abord chapitre 5, pour voir la grandeur dont Daniel a reçu. D'abord à Babylone et puis à Suse. À Suse, la capitale des Mèdes et des Perses. Il est écrit dans le chapitre 5, Daniel, verset 29, il est dit, aussitôt, Belshazzar donna des ordres et l'on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or. Et on publia qu'il aurait la troisième place dans le gouvernement du royaume. Belshazzar, c'était le fils de Nebuchadnezzar, celui qui s'est mis à boire du vin dans les ustensiles que son père avait amenés du temple de Jérusalem. Vous voyez, ces ustensiles qui servaient à adorer le Seigneur, son fils a plutôt, n'est-ce pas, perverti ses ustensiles, lui et ses amis, en buvant du vin et autre chose. Et dans le chapitre 6, le verset 28, il est écrit, Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Vous voyez, là, ici, dans le chapitre 5, il est à Babylone. Mais dans le chapitre 6, il est à Suse, dans la capitale du roi Assyrus. Ouais, c'est comme ça. Daniel a servi au moins à cinq rois, ouais, avant sa mort. Et voilà donc ce que nous voyons ici. Et nous voyons, n'est-ce pas, que ce soit dans Mardoché, nous voyons dans Joseph, dans Daniel, voyez cette belle image de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui qui est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Celui à qui tout pouvoir dans les cieux et sur la terre a été donné par le Père. Amen. Oui, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, le premier après le Père. Assis à la droite du Père et à qui tout pouvoir a été donné, notre grand Dieu, notre grand Seigneur et notre grand Sauveur. Amen. Et une autre chose, dans Philippiens, chapitre 2, nous voyons ce que Philippiens parle de la gloire dont Dieu l'a souverainement élevé, après qu'il ait accompli la volonté de son Père, en mourant pour le péché de son peuple et en payant la dette du péché de son peuple. Il est écrit, à partir du verset 8, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. Ouais. Ça veut dire qu'il est Seigneur comme Dieu le Père. N'oubliez pas. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, un seul Dieu. De même nature et égaux. Égaux en tout. Égaux. Les trois personnes sont égales en tout. Les trois personnes sont de même nature. Sont égales en tout. Et voilà notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous sommes les premiers, n'est-ce pas, à fléchir le genou devant la grandeur de ce Dieu. Nous, à qui il s'est révélé, nous à qui il a révélé sa gloire, nous à qui il a révélé sa grâce, sa surabondante grâce et son grand amour dont il nous a aimés en prenant notre place sur la croix pour notre péché et en nous sauvant de la condamnation de ce péché et de la mort. Nous sommes les premiers à fléchir le genou, nous sommes les premiers à confesser, n'est-ce pas, la gloire de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Nous sommes les premiers. Et ça, c'est notre vie, en fait. C'est notre vie. C'est pas quelque chose que nous faisons simplement une fois, mais nous sommes constamment genoux fléchis devant notre Seigneur. Même lorsque nous travaillons, même lorsque nous marchons, mais c'est une attitude. Nous sommes ici genoux fléchis et notre langue confesse sa gloire constamment. Et nous voyons encore une autre chose concernant Mardoché. Il est dit, Mardoché était considéré parmi les Juifs et aimé de la multitude de ses frères. Et cela aussi se rapporte à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, n'est-ce pas, qui est élevé en estime au-dessus de toute autre chose dans les cœurs des siens, aimé au-dessus de toute autre chose dans les cœurs des siens. Ouais. C'était ça, Mardoché, à Suse. Il était considéré et aimé de ses frères. Et en réalité, y a-t-il autre chose qui soit élevé en estime dans le cœur des élus? Y a-t-il autre chose qui soit aimée au-dessus de toute autre chose dans le cœur des élus, si ce n'est le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ? Lui et lui seul. Lui et lui seul. Et une autre chose, et la dernière, Mardoché rechercha le bien de son peuple et parla pour le bonheur de toute sa race. Voyez, mes amis, c'est encore ici cette belle image que nous voyons dans le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est venu dans ce monde pour chercher le bonheur éternel de son peuple. Et il l'a obtenu en mourant sur la croix pour le péché de son peuple. Hein? Et par sa justice, il a revêtu son peuple. Il a revêtu son peuple de sa justice. Et il est assis à la droite du Père et il intercède pour ce peuple. Amen. Oui, il est assis à la droite du Père et il parle du bien de sa race. Il cherche le bonheur de sa race. Non seulement il l'a cherché à travers sa mort sur la croix, mais il est assis à la droite du Père et il parle du bien de sa race. En intercédant pour ceux-là qu'il a rachetés par son sang sur la croix. Voyez, mes amis, ce que t'es Mardoché à Suse dans ce dernier chapitre de Esther, c'est ce qu'est le Seigneur Jésus-Christ, assis à la droite du Père. Assis à la droite du Père. Oh, puisse-t-il être l'objet de notre contemplation? Puisse-t-il être l'objet de notre admiration? Et puisse-t-il être notre joie, notre paix, notre assurance et notre repos? Amen. Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs.